France sur France Bleu, Wendy Bouchard.
Bonjour, bienvenue à vous tous dans Ma France. Nous sommes en direct jusqu'à 13h et je vous raconte l'actualité avec mes invités. Cette question à la une, irez-vous voter, chers auditeurs, pour les élections européennes le 9 juin prochain? 50% des Français pourraient s'abstenir alors que les enjeux de la défense à l'agriculture sont capitaux. Êtes-vous convaincu ou désabusé comme Renault à Mende en Lozère?
Moi je suis français, mais européen. Ils nous pondent des lois, surtout sur l'environnement. Ils n'ont jamais vu un lapin de leur vie. Ils n'ont jamais vu un poisson de leur vie. Et ils nous expliquent ce qu'on doit faire.
Et redonner l'envie d'Europe, eh bien c'est le sens du discours, notamment la Sorbonne, en ce moment même à Paris, d'Emmanuel Macron. Il le dit en ces mots, notre Europe est mortelle, elle peut mourir, met en avant aussi les enjeux de sécurité et la souveraineté corrélée à la présence de frontières. Notre invité réagit aux propos du chef de l'État dans quelques instants. Il s'agit de l'agricultrice tarnaise Céline Himard, numéro 2 de la liste des Républicains. À 12h30, comment réindustrialiser notre pays? Sur quelles entreprises on peut compter? On va parler des secteurs d'excellence, de nos fleurons français. Nous serons dans la Creuse avec la marque Sauton, en Normandie, par la voix d'Hervé Morin, première région industrielle de France. On vous parlera de la marque Le Petit Olivier avec Olivier Luanzi, chargé par le gouvernement de ce chemin vers la réindustrialisation.
Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici.
Mais d'abord, et pour commencer dans Ma France, nous qui vous parlons régulièrement de la tension dans notre système de soins, de la colère des médecins aussi face aux déserts médicaux, on va vous informer de cet arrêt d'activité attendu entre le 3 et le 5 juin prochain. À vos côtés, bonjour Jérôme Marty.
Bonjour Annie Bouchard.
Vous qui êtes médecin généraliste à Fronton en Haute-Garonne, président du syndicat de l'Union française pour la médecine libre. Autrement dit, Jérôme Marty, vous nous annoncez clairement sur France Bleu une grève d'activité dans les cliniques, dans les hôpitaux privés les 3, 4 et 5 juin prochains. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Jérôme Marty?
C'est un mouvement annoncé reconductible de 3 jours, vous l'avez dit, 4, 5 juin, mouvement très dur de fermeture totale des établissements et sur tout le territoire, accompagné de la médecine de ville, parce que on ne peut plus accepter que l'État fasse une telle différence entre l'hôpital public et les cliniques privées, avec une campagne tarifaire qui est en train de tuer, je pèse mes mots, quantité d'établissements, puisque vous savez que les hôpitaux ont eu une augmentation de 4,3% et 0,3% seulement pour le secteur privé, alors que le secteur privé, on le rappelle, est un drôle de secteur privé, entre guillemets, puisque plus de 80% de ses ressources proviennent de l'assurance maladie. Donc, si l'on n'augmente pas à l'aune des services rendus, et dans certaines régions, vous avez plus d'activités qui sont les cliniques que l'hôpital, à ce moment-là, on va tuer quantité d'établissements et on va provoquer une inégalité de soins encore plus grande pour les Français, et ça, on ne peut pas l'accepter.
En gros, vous dites, Jérôme Marty, on assure les mêmes missions que l'hôpital public, les mêmes soins que l'hôpital public, qui sans nous d'ailleurs imploserait, mais on n'est pas aidé proportionnellement à notre contribution.
C'est exactement ça. Nous assurons les mêmes missions, nous avons les mêmes personnels, nous avons les mêmes malades, et il y a une différenciation qui n'est plus tenable et qui met en péril les activités de quantité d'établissements. Que ce soit d'ailleurs les établissements de court séjour ou des établissements de moyen séjour, tout ce qui est soins de suite réadaptation, tout ce qui va s'occuper des patients à la sortie de l'hospitalisation quand ils ne sont pas stabilisés, qui sont mis aussi en péril aujourd'hui.
Vous tirez la sonnette d'alarme avec les cliniques, les hôpitaux privés, vous comme médecin aussi libéraux, 60% de ces établissements qui pourraient se retrouver en déficit suite à la hausse des tarifs hospitaliers décidés par le ministère de la Santé. Et je vais vous donner une illustration très concrète avec le groupe Ramsay Santé, qui compte une dizaine d'établissements dans la métropole lilloise, qui accueille plus de 200 000 patients chaque année. Et vous y êtes avec nous, Odile Sénelard, pour France Bleu Nord.
L'écart de revalorisation entre le public et le privé va entraîner pour les 10 établissements du groupe Ramsay Santé de la métropole lilloise un manque à gagner de 8 millions d'euros en un an et mettre ainsi une partie d'entre eux en situation de déficit. Emmanuel Dechiro est le directeur du groupe Ramsay Santé pour la métropole lilloise.
Quand on est en déficit, on doit renoncer à nos investissements et à nos innovations au profit de la santé des Français. On doit renoncer aux revalorisations salariales et ça n'est pas acceptable pour des professionnels qui font bien leur travail, dont nous sommes fiers et qui sont à égalité de devoirs et de compétences que les autres professionnels de santé.
Avec également des conséquences pour les patients qui pourraient voir certains délais allongés, d'où l'incompréhension d'Emmanuel Dechiro face à cette très faible revalorisation. Il dénonce l'inégalité de traitement entre le public et le privé.
Les établissements privés représentent 35% de l'activité hospitalière pour 18% seulement des dépenses. Donc c'est un secteur qui est essentiel en fait dans le dispositif de santé en France. Donc le détruire, l'amoindrir, ça ne va pas améliorer la prise en charge des Français.
Si la situation n'évolue pas dans les prochaines semaines, les établissements du groupe Ramsay Santé de la métropole lilloise cesseront totalement leur activité à partir du 3 juin, mis à part bien sûr les soins urgents et vitaux.
Alors si ça ne bouge pas, justement, la cessation d'activité les 3, 4 et 5 juin, qu'est-ce que ça veut dire, Jérôme Marty, concrètement? J'entends notamment pour tous les Français qui auraient programmé des interventions chirurgicales, par exemple, dans cette période déjà énoncée.
Ça veut dire que tout cela va être porté. Seule la dialyse continuera, mais même les urgences s'arrêteront. Et vous savez que les cliniques privées comptent pour 3 à 4 millions d'entrées aux urgences. Donc ce n'est absolument pas rien.
Donc c'est reporté vers le public.
Le système ne peut pas vivre sans eux. Et ça sera reporté. Les blocs seront déprogrammés. Les interventions, le suivi programmé des patients, tout ça va s'arrêter pendant 3 jours, reconductible. Et les urgences, on annonce qu'on aura encore une semaine d'arrêt d'urgence après ces 3 jours, si on n'a pas obtenu ce que l'on veut, avec une possibilité de reconduction. Et la médecine de ville accompagne. Nous, on appelle à la fermeture des cabinets de ville. Également, vous savez qu'on est en négociation avec le gouvernement, que le gouvernement ne veut absolument pas investir dans la médecine libérale, ce qui est une folie, puisque nous voyons 95% des patients et que l'on sait les difficultés.
Ça s'annonce donc très rude, à vous entendre, Jérôme Marty. Que dire aux patients qui se sentiront peut-être pris en otage de ces revendications néanmoins très importantes? Mais je pense à tous ceux qui attendent peut-être une intervention chirurgicale. Alors, ce ne sont pas des soins d'urgence parce qu'ils pourraient être reportés, vous l'avez dit, vers l'hôpital public, mais des opérations d'importance. Néanmoins, que leur dire à ces patients? Ils sont sans doute à l'écoute.
Dire aux patients que ce n'est pas notre rôle comme ça de faire grève, qu'on n'est pas formaté pour ça. Que quand on prend des décisions comme celle-ci, on ne les prend pas à la légère. Ce sont des mouvements qui sont extrêmement rares. Le dernier mouvement de fermeture totale des cliniques, ça remonte à 2001. Donc il y a plus de 20 ans, c'est vous dire si c'est rare. Et pour que l'on fasse cela, il faut vraiment que les choses soient profondément dramatique. Et encore une fois, si on le fait, c'est pour sauver un secteur qui est indispensable à la prise en charge des patients et pour que chaque patient puisse trouver un accès aux soins et garder sa liberté de choisir aussi entre le secteur privé et le secteur public.
Les hôpitaux, les cliniques privées qui assurent, Jérôme Marty, près de la moitié des actes chirurgicaux en France, qui assurent 40% des traitements du cancer, 25% des soins palliatifs ou des séjours de psychiatrie. On a bien compris évidemment l'intérêt et la pertinence et le caractère indispensable de ce secteur privé. Qu'est-ce que vous demandez au fond? Une vraie coopération publique-privée aujourd'hui en France qui n'existe pas à vos yeux, en tout cas du côté des gouvernants?
On demande simplement une équité de traitement entre les deux secteurs. On ne peut pas continuer à déshabiller l'un pour essayer de sauver l'autre, ce qui est une folie, parce qu'en fait, vous savez, longtemps on a dit le système marche sur deux jambes, une jambe publique, une jambe privée, mais c'est même pas vrai. Le système, c'est un seul corps. Quand vous affaiblissez un corps, vous lui faites prendre des risques, et ça entièrement. Ça veut dire que l'hôpital public ne peut pas vivre sans les hôpitaux privés, de la même façon que les hôpitaux privés d'ailleurs ne peuvent pas vivre sans l'hôpital public, de la même façon que la médecine de ville ne peut pas vivre aussi sans les établissements. Tout ça est un même corps. Donc on ne peut pas comme ça affaiblir l'un en se disant allez, je vais renflouer l'autre. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche.
Ça veut dire que nos impôts, si on vous suit dans la logique, ne sont pas suffisamment bien affectés. Ils le sont en partie pour l'hôpital public, mais il n'y a pas ce continuum vers le privé qui pourtant est indispensable.
Ben, nos impôts sont profondément mal gérés. On est quand même le pays le plus fiscalisé du monde occidental. Et vous le voyez bien, la justice ne fonctionne pas, la sécurité ne fonctionne pas, l'éducation nationale a des difficultés, la santé ne fonctionne pas. La question, c'est comment et où on flèche cet argent. Donc ce que l'on demande, c'est que on finance à égalité de traitement le secteur libéral et le secteur public, et puis surtout que l'on voit la santé non pas comme une dépense, mais comme un investissement. Il n'y a pas d'investissement plus rentable pour un pays qu'investir dans sa santé.
Oui. Vous lancez un appel sur ces ondes ici et que nos auditeurs entendent bien. Si vous aviez des opérations prévues dans le secteur privé, les 3, 4 et 5 juin à ce jour, ces opérations s'apprêtent à être reportées, reprogrammées. Appel que vous lancez aussi au président de la République. Alors, il est en train de parler d'Europe et on va en parler nous-mêmes dans un instant. Mais que lui dites-vous très clairement, Emmanuel Macron, pour lever cette grève, s'il vous entend?
Nous lui disons qu'il prenne la mesure de la gravité de la situation. Encore une fois, on ne peut pas accepter que des activités entières soient mises en péril, que des services ferment, que des établissements ferment, que l'on prive les Français comme ça de la proximité sur tout le territoire que sont les hôpitaux privés, qu'il prenne la mesure de l'importance de la médecine libérale. Ce ne sont pas que des mots, vous comprenez. On a un gouvernement qui nous fait une politique des acronymes, qui nous crée tout le temps des espèces d'entités administratives, CPTS, CTS, etc., en disant disant on a sauvé le système, mais ça ne crée pas un seul soignant. Ce que l'on veut, c'est que les médecins s'installent, que les médecins, les infirmières, les aides-soignantes soient heureux d'exercer, que l'on n'ait plus cette fameuse perte de sens que l'on connaît partout. Et ça, ça veut dire qu'il faut sortir d'une politique qui est basée sur des mots pour une politique basée sur le réel avec de véritables investissements.
Le réel, c'est cette coopération publique-privé, ce privé, secteur privé indispensable pour réaliser les soins. Je rappelle, la moitié des actes chirurgicaux sont aujourd'hui organisés par les hôpitaux, les cliniques privées qui assurent aussi 40% des traitements du cancer, 25% des soins palliatifs ou des séjours de psychiatrie. Vous dénoncez une mauvaise politique de tarifs hospitaliers, mauvaise politique tarifaire qui fait qu'aujourd'hui, les établissements privés prévoient d'arrêter totalement leur activité hors soins urgents et vitaux à partir du 3 juin, 3, 4 et 5 juin. Grève reconductible, merci de nous en avoir parlé et explicité surtout aussi ce mouvement sur France Bleu et dans Ma France, Jérôme Marty. Merci.
Ma France sur France Bleu. Votre quotidien, vos solutions.
Vous qui êtes à l'écoute en ce moment, nous vous parlons d'un discours qui a lieu à Paris, à la Sorbonne. Discours sur l'Europe tenu par Emmanuel Macron. Le chef de l'État parle d'Europe et veut dévoiler une série de mesures pour construire une Europe plus souveraine et plus puissante. Il s'exprimait encore justement sur la puissance européenne il y a quelques secondes, Emmanuel Macron.
Déjà, question piège,
Emmanuel Macron, est-ce qu'il est là, notre président de la République? Un son d'Emmanuel Macron qu'on va entendre dans quelques instants. Nous sommes avec vous pour décrypter aussi ce discours du chef de l'État que vous suivez vous-même, Mickaël Darmon pour France Bleu. Bonjour Mickaël.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Éditorialiste pour France Bleu, ces mots d'Emmanuel Macron, très solennels hein, dans son ton. Notre Europe aujourd'hui est mortelle, elle peut mourir. Le chef de l'État qui met en avant cette démocratie libérale de l'Europe, qu'il dit attaquer, critiquer. C'est un discours de campagne, au fond, que prononce le chef de l'État.
C'est un discours d'alerte, évidemment, de campagne, mais surtout qui cherche à provoquer un électrochoc, étant donné donc la situation actuelle, donc dans les sondages de la liste Renaissance face à la liste donc conduite par Jordan Bardella, très très en avance. Et donc le chef de l'État choisit de dramatiser en posant d'entrée l'équation, c'est-à-dire l'Europe peut mourir si on ne participe pas à sa construction, si on ne maintient pas les choix qui ont été mis en avant. Donc cela montre bien effectivement à quel point il y a urgence pour le président de la République de s'installer dans cette campagne, d'en prendre le leadership et de tenter de rééditer ce qui s'est passé en 2019, puisque après son implication dans la campagne, eh bien le fossé avait été comblé. Mais il était à l'époque beaucoup beaucoup moins profond. Et là, on voit bien que depuis le début, d'ailleurs, que la stratégie choisie par le président de la République, dramatisée sur les enjeux existentiels de l'Europe, eh bien, ne fonctionne pas pour l'instant.
En tout cas, il le dit, hein, je souhaite faire de l'Europe un leader mondial, l'Europe puissante, il en parle en ces termes, il y a quelques secondes à la Sorbonne.
L'Europe puissante, c'est simple. C'est une Europe qui se fait respecter et qui assure sa sécurité. C'est une Europe qui assume d'avoir des frontières et qui les protège. C'est une Europe qui voit les risques auxquels elle est exposée et qui s'y prépare. Pour ça, il nous faut sortir d'une forme d'état de minorité stratégique. Beaucoup de pays européens avaient accepté, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on l'avait souvent imposé, de déléguer leur sécurité à d'autres. Et tout ce qui est stratégique dans notre monde, nous l'avions un peu délégué. Notre énergie, à la Russie. Notre sécurité, pour plusieurs de nos partenaires, pas la France, mais plusieurs aux États-Unis. Et des perspectives aussi critiques à la Chine. Nous devons les reprendre. C'est ça l'autonomie stratégique.
Alors, on parle de souveraineté, de défense, de souveraineté alimentaire qu'il nous faut consolider. Ce sont les mots à l'instant d'Emmanuel Macron qui s'exprime toujours à la tribune de la Sorbonne, discours sur l'Europe et sur lequel j'aimerais vous faire réagir aussi. Bonjour Céline Imar.
Bonjour Wendy Bouchard.
Vous qui êtes numéro 2 pour la liste des Républicains derrière François-Xavier Bellamy, votre liste pour l'instant en quatrième position avec 8% des intentions de vote devant celle de la France Insoumise. Comment tirer votre épingle du jeu? On vous a perdu Céline Imar décidément, mais on va vous retrouver dans quelques instants. Le temps de vous dire justement sur ce positionnement des différentes listes européennes, Mickaël Darmon, alors que les Français sont appelés à voter le 9 juin, il y a péril en la demeure pour la majorité, voulez-vous évoquées. Jordan Bardella et le RN sont en tête avec 31% des intentions de vote devant la liste de Valérie Ayer qui est à 16% et talonnée par celle du Parti Socialiste et de Raphaël Glucksmann. Voilà pourquoi on entend beaucoup ce matin à la Sorbonne les propos sur la souveraineté, sur la réaffirmation de la sécurité qui passe par les frontières. Bon, c'est un discours qui clairement aussi vire à droite.
Oui, absolument, parce qu'il faut aussi se souvenir que les thèmes de la souveraineté européenne ont été posés par Emmanuel Macron dès le début du premier confinement en 2020, lorsqu'il se déplaçait dans les usines où on fabriquait les masques, où on s'apercevait la dépendance de la France et de l'Europe à l'égard notamment des médicaments vis-à-vis de la Chine. C'est un thème qui, évidemment, n'est pas nouveau, mais surtout, le diagnostic que pose Emmanuel Macron aujourd'hui donne le sentiment qu'on est en train de découvrir cette situation. Or, si on prend du recul, et lorsqu'on se promène un peu dans les couloirs internationaux et qu'on discute avec différents acteurs étrangers, il faut savoir que la perception de l'Europe dans le monde est déjà depuis largement longtemps perçue comme étant non pas puissance mais une faiblesse, non pas une prépondérante mais plutôt secondaire. Et de ce point de vue-là, on le voit dans l'ensemble des conflits qui émaillent et qui égrènent et qui organisent, je dirais, ce début du XXIe siècle. Donc évidemment, dans un contexte de campagne, dans un contexte d'urgence, comme souvent c'est le cas en France, quand on est au pied du mur, alors on pose des diagnostics qui sont des diagnostics justes, mais tardifs.
Ouais, et qui peut-être sont les vôtres aussi, Céline Imar, je vous ai retrouvé. Pour les Républicains, vous entendez peut-être par bribes, en tout cas Emmanuel Macron, parler de la nécessité de retrouver la maîtrise des frontières, de bâtir une défense européenne crédible. Il parle de souveraineté, aussi bien industrielle qu'alimentaire. Là, on est sur des thèmes aussi que vous mettez en avant depuis le début de la campagne, Céline Imar, avec les Républicains.
Absolument, nous les mettons en avant, mais par les votes que nous faisons sur le plan national et au Parlement européen, nous les défendons réellement, contrairement à ce qu'ont fait les députés macronistes sur la partie agricole. Nous, on a voté contre le Farm to Fork, il est aujourd'hui impératif de redonner un cap et une vision, mais ça va au-delà des mots. Donc sur la souveraineté énergétique, les députés macronistes ont aussi voté contre le nucléaire pendant 5 ans, contrairement aux députés les Républicains. Et sur la défense et l'immigration, M. Macron fixe aujourd'hui un cap. Mais encore, c'est de la sémantique. Aujourd'hui, on est sur une immigration de masse, pas seulement en France, mais aussi au niveau européen. Elle atteint des records, 800 000 entrées illégales en Europe, rien qu'en 2023. Donc que ce soit au niveau de la souveraineté agricole, alimentaire, au niveau de l'immigration, de retrouver un cap. En fait, on voit bien ce décalage permanent entre les paroles et les actes, entre les déclarations d'intention à quelques encablures du vote du 9 juin et ce qui est sabordé en permanence par les députés macronistes à Bruxelles et à Strasbourg.
Est-ce que vous sentez le discours comme un discours de d'urgence face au péril de la liste peut-être de Valérie Ayer? Il y a péril en la demeure et Emmanuel Macron reprend la ligne, reprend le cap. Certains disent que finalement ce discours à la Sorbonne devrait être décompté du temps de parole de la liste portée par la majorité. Vous l'entendez ainsi aussi, Céline Imar?
Oui, bien sûr. Il utilise les outils présidentiels en termes de communication qui sont à sa disposition. Aujourd'hui, il souhaite se faire passer pour un président qui donne un cap. Mais tout le monde sait très bien qu'il s'immisce aujourd'hui dans la campagne de Valérie Ayer qui est à la traîne dans les sondages pour essayer de sauver un petit peu la baraque alors qu'il se fait rattraper par une liste socialiste et puis que le RN est toujours très haut. Non, aujourd'hui, vraiment, s'il faut qu'on soit aligné entre les paroles et les actes. Regardez le bilan des députés républicains, regardez les propositions qu'on formule, elles sont extrêmement claires, on ne peut plus se contenter de mots.
Et pourtant, Céline Imar, vous avez du mal, votre liste est en quatrième position, je le disais, avec 8% des intentions de vote devant celle de la France insoumise. Comment tirer votre épingle du jeu à un mois et demi des élections, alors que votre voix, si cohérente, dites-vous, soit-elle, peine à convaincre les électeurs aujourd'hui?
Aujourd'hui, malheureusement, on assiste à un vote en faveur du RN qui est le vote rejet de Macron. Et ça fait une sorte de bipolarité au niveau des votes. Mais moi, je pense que les Français sont en train, comme vous le dites, à 6 semaines, 7 semaines des élections, de se pencher réellement sur cette élection. On sait que les élections européennes, il est difficile de mobiliser les électeurs bien en amont. C'est maintenant que les Français se penchent sur les programmes. Nous, on fait une campagne de terrain très sérieuse. D'ailleurs, notre projet pour la campagne européenne et pour la prochaine mandature, nous allons le dévoiler la semaine prochaine. Et là, je pense que vraiment, que ce soit sur ce plan-là de souveraineté agricole, énergétique, de maîtrise de nos frontières, de notre immigration et de redonner un cap qui puisse vraiment aider les gens, les Français, aujourd'hui dans la problématique quotidienne sur le pouvoir d'achat, le pouvoir de transmettre, sur le pouvoir de produire. Mmh. Aujourd'hui, nous avons vraiment des propositions très fortes que les Français pourront voir. Très concrètement.
Les Français qui se penchent sur les programmes, le vôtre dans quelques jours, cet après-midi, comme un écho au discours d'Emmanuel Macron, Jordan Bardella, qui tient une conférence de presse pour présenter le programme du RN. 40-50% de participation ces dernières années pour les européennes, c'est un scrutin qui a du mal à mobiliser. Et donc, pour essayer de convaincre chacun d'entre nous d'aller voter, la Maison de l'Europe a passé 10 jours dans votre région, d'ailleurs, Céline Imar, à la foire de Toulouse et Morgane Euclin-Refait. Le message n'est pas toujours simple à faire passer.
Déjà, question piège, est-ce que vous savez quand ont lieu les élections européennes ?
Moi non.
Pas du tout.
En avril ? Non, on y est déjà. C'est mai alors.
Raté, seul ce couple là en tête.
Elles ont lieu le 9 juin.
On connaissait la date, oui. On vit en Europe quand même, donc c'est important.
Alors pour pousser les gens à voter, les membres de la Maison de l'Europe à Toulouse répondent aux questions.
Est-ce qu'on peut vous renseigner ?
René, un retraité, s'arrête.
Il n'y a pas suffisamment de proximité quoi, avec les élus européens. On a vu assez de malheurs en Europe, alors il faut voter.
Encore faut-il savoir comment savoir que c'est un scrutin à la proportionnelle avec un seul tour ? Ça, c'est le rôle de Fanny Bettinger.
On a beaucoup de documentation donc, qui permet de sensibiliser avec toutes les informations. Et je pense que du coup, ça parle à tout le monde et c'est plus facile donc, d'aller chercher les gens comme ça.
Sa collègue Lise Bacca acquiesce.
C'est vrai que les gens qu'il faut aller chercher, c'est ceux finalement avec lesquels il y a le plus de discussions possibles parce que c'est ceux qui sont moins informés et à qui on peut donner des informations et peut-être planter une petite graine dans la tête. On ne sait jamais.
En 2019, la participation aux élections européennes était repartie à la hausse après des années de chute. Les deux jeunes femmes espèrent que la pédagogie portera aussi ses fruits pour celle de juin.
Merci Morgane pour France Bleu Occitanie. Et avec vous pour terminer, Céline Imar, vous qui êtes numéro 2 de la liste des Républicains avec François-Xavier Bellamy, vous qui êtes agricultrice dans le Tarn. Convaincre les Français que ce scrutin est d'importance et déterminant aussi pour les grands sujets de société. Ils les énumèrent en ce moment à la Sorbonne, Emmanuel Macron, que l'on parle du rétablissement des frontières pour lutter contre l'immigration illégale ou lutter contre le terrorisme, parler aussi de souveraineté alimentaire ou d'agriculture, parce que ça c'est évidemment votre dimension première, Céline Imar.
Oui, absolument. Mais encore une fois, ce sont des mots, que ce soit sur les votes qu'il a fait les 5 dernières années ou aujourd'hui ce décalage permanent entre les grands plans, les grandes annonces, il n'y a rien. Et en tout cas, moi je vois au niveau de la campagne que effectivement les Français ne sont pas aujourd'hui pleinement conscients des enjeux. On voit que la dette publique a filé, là c'est vraiment quasiment 1000 milliards d'euros, rien que de dette depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Encore une fois, on voit bien l'inefficacité des dépenses publiques. Il fait des campagnes de communication pour informer les gens et ça ne fonctionne pas bien. Je pense qu'au lieu de vouloir créer de la dette et de l'impôt au niveau européen supplémentaire, puisque c'est aujourd'hui ce qui se trame au niveau européen, il ferait bien déjà d'essayer de rendre plus efficaces les impôts énormes qui sont prélevés sur les Français, dans les campagnes de communication pour faire vivre la démocratie, dans les services publics, dans l'hôpital et dans l'école.
Céline Imar, en campagne avec la liste des Républicains, François-Xavier Bellamy, tête de liste, et vous êtes numéro 2, vous présentez dans quelques jours votre programme aux Français, liste en quatrième position, en première position. C'est Jordan Bardella et le RN avec 31% des intentions de vote devant la liste de la majorité de Valérie Ayer à 16%, talonnée par celle du Parti Socialiste et de Place Publique de Raphaël Glucksmann. Mais il y reste encore un mois et demi aussi pour faire vos choix. Il est 12h31, on va se retrouver, merci à vous Céline Imar, merci à Mickaël Darmon. On va s'intéresser à la France qui bouge, aux moyens de réindustrialiser notre pays avec notre invité chargé par le gouvernement d'un rapport pour répondre à ce défi. Et puis on vous parle surtout des fleurons français, des marques qui fonctionnent bien chez vous. Nous sommes notamment dans la Creuse, en Normandie ou en Provence. À tout de suite.
Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici.
Chaque jour avec Willy Rovelli et la tribu France Bleu.
Bonjour madame, c'est moi.
On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission.
Eh ben dans le prochain numéro, comme d'habitude, entre 13h et 14h, on est là, on parle de quoi ? On parle de l'actu, on parle des tendances du moment, on parle de la vie quotidienne, avec des invités, avec des chroniques, et vous au standard. Alors appelez-moi, merci.
Willy Rovelli et la tribu France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Dès 13h.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Ma France, sur France Bleu, Wendy Bouchard.
Il est 12h32, nous sommes en direct dans Ma France. Une France qui cherche à se réindustrialiser. Comment trouver le bon rythme pour créer de l'emploi, créer un sursaut patriotique peut-être avec le fameux Made in France, davantage au cœur de la commande publique, soutenir les territoires d'industrie pour développer l'attrait de ces métiers industriels, de ce secteur tout court, 10% du PIB seulement aujourd'hui, disent les experts. Nous sommes en Normandie notamment, on va vous parler d'autres fleurons français aujourd'hui dans la Creuse, en Provence, avec notre invité chargé par le gouvernement d'une réflexion sur l'avenir de ces politiques industrielles. Olivier Luanzi nous accompagne dans quelques secondes.
Ma France sur France Bleu. Ça se passe bien chez vous.
D'abord dans une commune de France chaque jour pour mettre en avant, vous le savez, une initiative positive et inspirante dans l'un de vos territoires. Nous sommes avec France Bleu Belfort-Montbéliard à la maison de santé d'Héricourt qui organise une fois par mois un café des aidants. Et c'est un moment important, Christophe Beck, pour des proches qui sont souvent isolés et épuisés.
Souvent, la personne aidante s'oublie dans le soin qu'elle apporte à son proche malade.
Ça reste toujours très compliqué d'identifier ses propres besoins quand on est au soin de l'autre et quand on est au devant des besoins de l'autre.
Marthe Biry est psychologue à la maison de santé d'Héricourt.
C'est s'autoriser à penser aussi un petit peu à soi, se recentrer un peu sur soi, ce n'est pas oublier les besoins du malade.
Seul, pendant de longs mois, cette aidante a retrouvé le sourire grâce au Café des aidants.
C'est bien de voir qu'on n'est pas seul et de finalement de s'octroyer un temps pour soi.
Pas de révolution, mais des avancées à petits pas, explique Véronique Mouget, médiatrice familiale.
On espère vraiment que de rencontre en rencontre, on puisse aider ces personnes à faire des petits pas pour qu'elles-mêmes se sentent aussi épaulées.
Car quand on est aidant, il faut tenir.
Le médecin traitant m'avait prévenu que statistiquement, un aidant sur trois mourrait avant le patient. Ce qu'on m'avait dit quand la personne est tombée malade, c'est qu'il faut réussir à tenir sur la durée.
Le Café des aidants à Héricourt, un vendredi par mois, jusqu'à la fin de l'année.
Merci Christophe pour France Bleu Belfort-Montbéliard. Et nous sommes à vos côtés, docteur Colline Houbre. Bonjour.
Bonjour.
Vous qui êtes médecin à la maison de santé d'Héricourt, vous pourriez, je crois, même multiplier les échanges tant vous avez de demandes aujourd'hui, d'aidants, justement.
Oui, oui, il y a de plus en plus de personnes aidantes, de plus en plus de personnes malades. Donc, forcément, il y a des demandes qui s'accroissent.
Oui, ces séances qui durent 2 heures, que se dit-il à ce moment-là d'important et pourquoi, en ce sens, cet échange, cet espace est indispensable pour ces familles?
Eh ben c'est surtout un temps d'échange et de rencontre entre des personnes qui peuvent rencontrer les mêmes difficultés. Et puis aussi leur rappeler que être aidant, c'est un marathon, comme ça a été rappelé dans le reportage, et qu'il faut surtout pas s'oublier, il faut continuer à prendre soin de soi pour prendre soin des autres.
Vous voyez, avec une psychologue, une médiatrice familiale qui savent répondre aux problèmes justement d'anxiété, de déprime, ne pas laisser les aidants sans solution. C'est aussi à cela que sert notamment ce temps d'échange, pour terminer.
Exactement. C'est un temps pour écouter, pour accueillir et puis potentiellement répondre aussi à des questions plus techniques que pourraient se poser les aidants.
Merci, docteur Colline Houbre, avec cette maison de santé d'Héricourt qui propose ce café des aidants mis en lumière par nos amis de France Bleu Belfort-Montbéliard. Il est 12h35 et au cœur d'un certain nombre de nos territoires, on va s'intéresser ce jeudi à la manière dont la France se réindustrialise. Bonjour Olivier Luanzi.
Bonjour.
Il se trouve que vous vous y intéressez depuis de très nombreuses années et que vous êtes chargé par Bercy d'une mission sur la réindustrialisation. L'horizon qu'on vous a donné, c'est 2035. Qu'est-ce qui doit se passer en 2035? Quel est en tout cas l'objectif affiché?
Alors l'objectif, il faut le définir ensemble et ce vers quoi on tend, ce que je vais proposer dans quelques jours à Bercy, au ministère de l'économie et des finances, c'est qu'on vise une balance commerciale manufacturière, c'est-à-dire sur les biens qu'on produit, qui soit équilibrée. Là où aujourd'hui nous avons un déficit de 60 milliards d'euros par an.
Ce qui est sûr, c'est qu'on ne se réindustrialise pas en un claquement de doigts, ça prend du temps.
Ça prend du temps. Ça prendra beaucoup de temps. Ce qu'on arrive à modéliser aujourd'hui, encore une fois, les modélisations, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais elles nous servent un peu de guide. C'est que si on veut rejoindre la moyenne européenne, il nous faudra à peu près 20 ans. Mmh. On s'est désindustrialisé pendant 40 ans. Mmh. C'est pas en un claquement de doigts, c'est pas en quelques années qu'on parviendra à retrouver le niveau qui était le nôtre antérieurement.
L'industrie, c'est 10% du PIB aujourd'hui. Le niveau qu'on veut atteindre, c'est combien ?
Alors, il y a tout un débat sur les chiffres. Est-ce que c'est, alors pour donner quelques références, l'Europe c'est à peu près 16 en moyenne, donc ça doit être notre objectif ultime. C'est pas celui qu'on arrivera à atteindre, à mon avis, ou du moins avec les différentes auditions et puis les études qu'on a conduites en 2035. Et c'est pour ça qu'on propose cet objectif intermédiaire en 2035 d'avoir une balance commerciale manufacturière équilibrée. C'est déjà une très très belle ambition, encore une fois, 60 milliards d'euros de déficit actuellement. Et puis c'est un signal en termes de souveraineté, d'indépendance. Alors certes, ça ne veut pas dire que telle ou telle catégorie de produits ne va pas nous manquer, mais ça veut dire que globalement, sur les biens manufacturés, on échange, on importe, on exporte autant.
Sur quel secteur on peut s'appuyer? Quelles sont les filières d'excellence, j'allais dire? Quels sont les freins aussi? On va donner la parole à un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont volonté de réindustrialiser, de relocaliser une partie de leur production, qui ont parfois du mal. Nous sommes dans la Creuse, nous sommes en Provence, nous sommes en région parisienne dans quelques instants. Et je voudrais qu'on prenne, puisqu'on parle de territoire d'industrie, un cas d'école, parce que c'est la région Normandie que vous représentez, monsieur le Président. Bonjour Hervé Morin.
Bonjour.
Parce que la Normandie, c'est la région française où la part de l'industrie dans le PIB régional est la plus élevée. Comment y êtes-vous parvenu sur ce territoire qu'on pense peut-être de manière intuitive plus agricole finalement qu'industriel?
Oui, parce que comme tous les Parisiens, vous pensez que la Normandie c'est les
colombages, pense aux chevaux,
les
voilà.
Pommes et les vaches. mais en réalité, on a été une des régions les plus frappées par la désindustrialisation. On a pris très 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 cher. Et aujourd'hui, si on veut bien regarder les choses, on a à la fois des grands projets industriels, on a énormément d'investissements, et puis on a cette chance assez exceptionnelle, c'est que tous les grands projets industriels sont bâtis sur à peu près la même triangulation. Je vais vous raconter juste une anecdote pour que ça se comprenne bien. On a été en concurrence avec les Américains sur un projet qui est la production de bioplastique à partir de la protéine de blé ou de la protéine de maïs. Et c'est une boîte belge. Et le PDG avec qui est arrivé un jour dans mon bureau en me disant « Voilà, j'ai peut-être l'intention de venir m'installer en France et je pense que c'est en Normandie que je le ferai. Mais vous serez en concurrence, mais j'hésite avec les États-Unis. » Je me suis dit, c'est cuit, avec les États-Unis, on n'y arrivera pas, notamment avec les subventions massives que donne le gouvernement Biden pour la réindustrialisation, et puis les handicaps traditionnels de la France. Bien, et un an plus tard, il est revenu. Alors, on avait tout fait, on avait essayé de faire en sorte que la mariée soit la plus belle, mais puis il disparaît. Puis un an plus tard, il reprend contact, et il me dit, finalement, je vais venir chez vous. Je dis, mais pourquoi vous venez chez nous? Et il y avait, en vérité, la même triangulation qu'à chaque fois. La première, c'est... J'ai des sous-traitants industriels, j'ai des partenaires. Oui. Je me dis, quand je suis dans le Corn Belt aux États-Unis, j'ai peut-être du maïs, j'ai du blé, mais j'ai pas de sous-traitants, j'ai pas de partenaires industriels. Donc, aller dans une région industrielle, ça a du sens pour moi. Deuxièmement, j'ai la Seine, j'ai un grand port maritime, donc je suis connecté au monde. Et parce que j'ai la Seine, j'ai de l'eau, parce que souvent dans l'industrie, il faut de l'eau. Mmh. Et deuxièmement, je peux avoir du transport massifié, ne plus passer par le camion, mais passer par le fleuve. Oui. Et puis la troisième raison... c'est que moi, j'ai besoin de produire quelque chose qui soit décarboné. Et en Normandie, j'ai la chance d'avoir toute l'énergie décarbonée que je veux, l'industrie nucléaire, l'éolien offshore, l'hydrogène vert, et puis demain, espérons-le, l'hydrolien, c'est-à-dire les courants marins. Mmh. Donc, je peux avoir l'énergie décarbonée dont j'ai besoin. Quand vous discutez avec le patron d'Isman, qui va monter une usine de plus d'un milliard, 1,5 milliard d'euros, c'est exactement la même équation. Et on a donc... la chance d'être dans une région dans laquelle on a en effet un potentiel industriel important servi par de l'énergie.
C'est ça, mais Hervé Morin, ce qu'il dit, le président de la région Normandie, est très éclairant sur les intentions et puis les atouts justement d'un certain nombre de territoires d'industrie. Il évoque tout de même, on y viendra, les handicaps traditionnels de la France. Mais pour commenter cet exemple, là, très précis, Olivier Luanzi, ça coche les cases. Là.
Tout à fait, et puis vous avez évoqué des filières, c'est vrai que c'est important, il y a quelques filières, mais le premier argument mentionné par le président de la région de Normandie, c'est l'écosystème.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est indispensable. Des grandes gigafactories, ce sont des cathédrales, c'est des victoires emblématiques. Mais pour qu'elles fonctionnent bien, il faut qu'il y ait tout un tissu industriel de sous-traitants, de maintenance, qui soit autour et qui permette de faire vivre ces grandes cathédrales.
Oui.
Et c'est pour ça que la logique de territoire qu'on a mis en avant dans Territoire d'Industrie est absolument indispensable. Elle recèle à peu près les deux tiers ou trois quarts de notre potentiel de réindustrialisation, à côté des grandes filières technologiques. Encore une fois, il faut faire les deux. Mais il faut bien se rendre compte que ce potentiel de nos territoires est plus de la moitié du gisement d'emplois industriels qu'on peut avoir d'ici 2035.
Alors, on peut parler de métal, on peut parler d'acier, on peut parler de bois avec une marque française qui s'en sort très bien. Et je voudrais qu'on s'implante quelques secondes avec vous, Mélissa Valto, vous qui êtes chargée du digital chez Sauton, la marque Sauton pour les mobiliers, les objets pour les chambres d'enfants. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Vous êtes dans la Creuse. Je voudrais qu'on parle avec vous précisément du Made in France. Est-ce qu'il est suffisamment aidé, valorisé? Et surtout, à vous, pour vous, quel est le secret de votre réussite depuis 1948? 1948, l'organisation de cette industrie dans la Creuse pour Sauton.
Oui, tout à fait. Alors, je pense que la force de Sauton, et notamment sur ces dernières années où l'industrie a eu quand même quelques difficultés, ça a été de savoir se réadapter et toujours être à l'écoute de son marché et des futurs parents, qui sont notre cible principale. Donc, au fur et à mesure des années de l'avancement de Sauton, je pense que ça a été l'une de nos plus grandes forces. Et aussi l'agilité en fait que nous permet la fabrication française.
Sachant que le marché de la puériculture ne se porte pas très très bien. Donc vous, comment vous arrivez à faire la différence tout en produisant français, parce que c'est aujourd'hui votre leitmotiv?
Tout à fait. C'est vrai qu'on est aujourd'hui sur des années où le taux de natalité est très très bas. Je crois que sur l'année 2023, on est à moins 7%. C'est l'un des taux de natalité les plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il est très important pour nous de réussir à proposer le bon produit et de le proposer au bon endroit. Donc on a passé la crise Covid où le Made in France a eu vraiment un engouement très important,
oui.
Puisqu'il a été compliqué hein, de faire livrer des produits d'import, et notre plus grosse concurrence venait beaucoup de l'Europe de l'Est et de l'Asie. Après la crise Covid, Sauton a su répondre aux attentes et aux besoins de ses clients en leur proposant toujours nos produits de qualité et Made in France. Et en fait, avec les années qui sont passées et les nouvelles crises, notamment avec depuis 2022 maintenant l'inflation qui est très importante, on voit qu'il y a des nouveaux besoins une habitude de consommation qui évolue de plus en plus vers le digital et de plus en plus vers des prix très attractifs.
Oui, c'est un virage digital que vous avez bien amorcé, parce que je sais que vous êtes présent notamment sur le site de La Redoute. Voilà, il y a votre site à vous, mais il y a un gros effort de digitalisation pour rendre votre marque très, très opérante et concurrentielle. Vous avez combien de salariés à Guéret pour l'entreprise et l'industrie Sauton, le mobilier pour enfants, et combien de production produisez-vous totalement en France?
Alors, on est à peu près une centaine de salariés aujourd'hui sur le site donc de Guéret, qui est notre unique site, où toute la fabrication est faite du coup en Creuse. Et du coup, pour votre deuxième question, je ne saurais pas vous donner un chiffre précis aujourd'hui.
Sur la part de produits français dans la conception de votre mobilier. C'est pas du 100% français?
Ah si, pardon. Excusez-moi, j'avais pas compris la question.
Oui,
bien sûr, tout est fabriqué. Tout est fabriqué à Guéret dans notre usine en Creuse.
Très bien. Alors, Olivier Luanzi, voilà un exemple aussi éclairant. Nous sommes à Guéret depuis 1948. C'est le bassin de cette marque Sauton qui a su s'adapter à ces différentes crises, hein, on l'entend, et qui parlait de tarifs et d'offres concurrentielles. Bah, il faut se battre. Effort de digitalisation, pratique des prix, différentes entrées de prix, notamment sur Internet.
Oui, tout à fait. Alors, il y a la digitalisation, il y a le multicanal. Ce qui me semble important de souligner dans cet exemple-là, c'est ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire c'est le Made in France. Aujourd'hui, on a une consommation, alors qui passe par la consommation publique, c'est la commande publique, ou bien par les grands groupes, ou bien par nous, en tant que consommateurs. Et en fait, l'achat Made in France est finalement très peu valorisé dans notre pays. On en parle beaucoup, mais on le fait encore trop peu, notamment par rapport à des comparatifs européens. Alors c'est assez facile, parce que quelque part, on est dans le même environnement, on est les cousins les uns des autres, et donc on peut vraiment se comparer. Il y a un exemple qui est frappant, c'est celui de la commande publique. Aujourd'hui, d'après les études qu'on peut recueillir, notre commande publique est moins patriotique que nous. C'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, on achète plus de Made in France en pourcentage, que la commande publique ne le fait.
Et on nous encourage à le faire à titre individuel.
Et on nous encourage à le faire, et moi je vais vous encourager encore plus à le faire, parce que c'est pas simplement un acte patriotique, mais c'est voter aussi, je dirais, avec sa carte de crédit, et ça permet de créer des emplois, de créer une activité, de financer notre système social et notre système global.
Mais que le marché public ne le fait pas.
Mais le marché public lui-même est moins patriotique que nous en tant que consommateurs. C'est tout à fait la situation différente en Allemagne. On est sous les mêmes règles européennes. Donc c'est possible,
oui.
C'est possible. Il faut qu'on se mobilise pour le faire. On sait à peu près, même on sait clairement ce qu'il faut faire pour ça. Et c'est devant nous. Et on estime qu'il y a à peu près 15 milliards d'euros de Made in France supplémentaires que la puissance publique pourrait acheter par an. Alors 15 milliards d'euros, ça vous dit pas beaucoup, sinon que c'est un gros chiffre. C'est un quart de notre déficit commercial manufacturé.
Ouais.
Voilà, un quart de notre déficit commercial qui pourrait être compensé par une commande publique plus patriotique dans le cadre des règles européennes existantes. Il n'y a pas à changer les règles européennes. Les Allemands le font, les Italiens le font.
Ça paraît tellement logique, Olivier Giraudy.
Les Italiens ont même créé un ministère du Made in Italy.
Ah bah voyons, c'est une très bonne idée. Hervé Morin, vous voulez réagir sur ce sujet. Voilà, pourquoi la commande publique n'est pas suffisamment aboutie pour promouvoir ce Made in France?
C'est une question de volonté politique, c'est aussi simple que ça. Je suis dans une région, madame, où je m'étais engagé en 2015, ça fait partie de mes fiertés, à ce que nous commandions. Alors moi, c'est pas Made in France, c'est Made in Normandie. Nous sommes aujourd'hui à 97% de la commande publique régionale qui est confiée à des entreprises de Normandie, donc des entreprises françaises.
Oui.
Donc c'est tout à fait possible. Et je remarque que ceux qui font le moins bien, ou celui qui fait le moins bien, c'est l'État. Il suffit de voir ce qui se passe, par exemple, sur les uniformes dans les collèges et dans les lycées, et vous verrez à qui est passée la commande publique. Regardez au ministère des Armées comment se passe aussi la commande sur notamment tout ce qui concerne l'habillement et toute une série d'éléments du back-office. Donc j'ai envie de dire à votre interlocuteur, les premiers qui devraient le faire, c'est d'abord l'État.
Bah, je crois que vous êtes sur la même
les collectivités
ligne.
Locales en général sont plutôt assez exemplaires en la matière, en essayant de faire en sorte, tout en respectant le code des marchés publics,
absolument,
d'intégrer toute une série de dispositifs qui permet de faire en sorte que les boîtes de BTP, c'est des boîtes de BTP qui sont dans la région.
Merci beaucoup Hervé Morin, président de la région Normandie. Voilà pour cette incise, et de toute façon vous êtes exactement sur la même ligne. C'est le discours que vous prenez, que vous allez porter aussi au chef de l'État quand vous rendrez cette mission sur la réindustrialisation, Olivier Luanzi. Je voudrais qu'on reçoive aussi sur les freins que nous rencontrons. Alors vous avez parlé de l'inaboutissement de la commande publique en termes de Made in France, on ne va pas assez loin. Gérard Lux est président de l'entreprise Steel, créée en 1945. Bonjour Monsieur Lux.
Oui, bonjour.
Vous l'avez racheté en 2011, cette entreprise spécialiste notamment du thermomètre. On est dans une forme d'industrie artisanale parce que vous faites travailler des souffleurs de verre. On parle de Made in France, on parle aussi chez vous beaucoup, c'est un de vos combats, de chemin vers la relocalisation. En 2022, 70% de votre production est encore réalisée en Chine. Où en est-on aujourd'hui, Gérard Lux?
Eh bien, donc, les 70% sont toujours d'actualité, non pas parce qu'on n'a pas progressé, mais tout simplement parce que le chiffre d'affaires a progressé.
D'accord.
Donc, en valeur absolue, on produit plus en France, malheureusement plus lentement que je ne l'aimerais, que j'aimerais, principalement parce qu'il me manque du personnel. On a une grosse difficulté à recruter, c'est un de mes problèmes majeurs à régler, et donc avoir des nouvelles machines. Actuellement, on travaille avec des sociétés genre Fanuc pour les robots. On travaille avec Roland pour tout ce qui est injection d'encre. On remplace des anciennes techniques de production par des nouvelles.
D'accord.
Ça nous a ouvert de nouvelles perspectives, notamment tout ce qui est dans l'événementiel et autres. Donc, c'est des marchés sur lesquels on essaye de se développer. On a fabriqué des thermomètres spécifiquement pour Nature et Découverte, ce qui est bien.
Très bien.
Mais par contre, la difficulté, c'est qu'effectivement, ces nouvelles technologies, il faut les absorber, il faut les comprendre, il faut les programmer. Et donc, effectivement, ça me demande un peu plus de temps que des machines traditionnelles, genre tour fraiseuse, qui sont.
Évidemment. Donc, vous manquez de personnel qualifié sur ces nouveaux outils, vous manquez de personnel tout court aussi sur des métiers qui peut-être ne sont pas si attractifs qu'ils l'étaient auparavant ou qu'il faut reconquérir.
Oui, la grosse difficulté que nous avons, et je pense que je fais partie de pas mal de réseaux entreprendre, mesure et autres, on a beaucoup de problématiques en commun. Les jeunes ne se projettent plus dans une carrière. Ils veulent quelque chose à court terme, et puis si ça les embête, ils changent de métier. Et nous, malheureusement, dans mon métier, il faut 3 à 7 ans pour former un souffleur de verre. Effectivement, la difficulté, c'est que on est maintenant, à la rapidité. voilà, donc c'est toute la difficulté, c'est de trouver des gens qui sont passionnés.
Bien sûr.
Et pour faire ce métier.
Et qui prennent le temps de se former. Ouais. C'est très intéressant ce que vous dites, hein, Gérard Lux, pour l'entreprise Thiel, spécialiste notamment du thermomètre. Et donc, on trouve notamment vos productions aussi dans les anciennes comme Nature et Découverte. Et Olivier Luanzi, c'est un constat que vous faites.
Ah oui, voilà, il est généralisé.
Sur l'attractivité de ces métiers.
Dans tous les territoires, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, il y a 60 000 postes non pourvus dans l'industrie française. Ça représente 5 milliards d'euros de valeur ajoutée qu'on ne fait pas, de chiffres d'affaires, de commandes qui sont reportées ou qui ne sont pas prises. Alors, quand on regarde un peu sur le détail, ce qui est un peu frappant, c'est que globalement, on forme suffisamment de personnes aux métiers industriels. Alors ça, c'est on dirait pas. Mais il y a la moitié des jeunes qui sont formés aux métiers industriels qui ne vont pas y travailler. Et en général, dans les parcours, c'est des gens qui ont été mis dans ces formations, je dirais un peu poussés dans ces formations. Mm-hmm. Ils n'ont pas la vocation, c'est le terme qui a été évoqué. Et en fait, souvent, ils ne connaissent pas ou ils connaissent mal les métiers auxquels ils vont être formés. Donc, l'effort qu'on doit faire collectivement, certes, il faut les formations aux beaux endroits et aux bonnes compétences. Ça, c'est sûr, c'est la carte des formations. Mais il faut surtout qu'on se focalise sur la sensibilisation, sur l'orientation. Ouvrir les usines aux jeunes quand ils sont en collège ou en lycée, leur montrer ce que c'est, leur faire interagir avec des gens qui sont quasiment de leur génération pour qu'ils comprennent ce qu'on peut y trouver, quel est le niveau de salaire, quel est l'épanouissement, comment on y travaille. On travaille plus à la chaîne, on travaille en équipe.
L'appétence de ces nouvelles machines,
exactement. Maintenant, l'industrie, c'est technologique. Ouais. Et en fait, quand on regarde les enquêtes d'opinion, y compris auprès des jeunes, l'image que nous avons collectivement en tant que Français de l'industrie, c'est quasiment celle des années 70. Vous rendez bien compte que depuis, l'industrie a complètement évolué technologiquement. C'est pas du tout les mêmes types de métiers.
Alors, il y a quand même pas nier dans le discours.
Il y a quand même un point qui reste quand on regarde un peu finement les raisons pour lesquelles ces métiers n'attirent pas forcément les jeunes, ne sont pas aussi attractifs qu'on le voudrait. C'est que l'industrie, quand même, son modèle d'organisation historiquement, c'est le fordisme, le taylorisme, la pyramide verticale, la tâche répétitive. Et là-dessus, l'industrie collectivement doit s'interroger sur son management de proximité. Oui. Si les jeunes ne vont pas vers l'industrie, c'est qu'ils en ont pas toujours la bonne image. Ça, c'est un travail de communication qu'il faut faire. Mais il y a quand même une question de management de proximité. Les gens, ça a été dit dans l'interview, les jeunes attendent plus d'autonomie, plus de travail en équipe, plus de responsabilité. Ça demande un travail de fond sur la manière dont on organise l'industrie. Mmh. C'est un travail qui est en cours, mais il y a encore pas mal de marge de progrès.
Merci de nous éclairer, Olivier Luanzi, chargé par le gouvernement d'une réflexion sur l'avenir de nos politiques industrielles. Vous allez remettre dans quelques jours un rapport pour réengager la France dans ce chemin. Merci à vous, Gérard Lux, président de Steel, donc à côté de Melun, en Seine-et-Marne. Merci à Mélissa Valto qui représentait la marque Sauton. Nous sommes en Provence, désormais à vos côtés, avec Éric Renard, cofondateur de la marque Le Petit Olivier, qui dirige la Phocéenne de cosmétiques. Bonjour Éric Renard.
Oui, bonjour.
Est-ce que tous vos produits d'abord sont fabriqués en France? Parce qu'on parlait de Made in France préalablement.
Absolument, 100% des productions, que ce soit les marques Le Petit Olivier, on a trois marques, on a Le Petit Olivier, on a l'OVA également, qui est une marque de produits solaires, et on a même fait mieux que ça, puisqu'on a racheté en 2023 la marque Laboratoire Endôme à un grand groupe italien, et cette marque qui était fabriquée en Pologne et en Italie, on la rapatrie en France, en ce moment, on est en train de le faire, et elle sera 100% fabriquée en France d'ici quelques semaines.
Alors ça c'est magnifique, nous sommes à Salon de Provence avec vous, et ce sont des produits notamment que l'on trouve aussi dans la grande distribution, aussi à l'étranger.
Absolument. Alors en France, on est exclusivement distribué en grande distribution, un peu sur notre site internet, mais c'est anecdotique. Et sinon, vous pouvez trouver tous nos produits chez les Leclerc, Carrefour et autres. Mmh. Et on est présent dans une soixantaine de pays aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'industrie cosmétique en France, c'est une industrie, j'entendais votre invité parler de filière, c'est une industrie qui est très forte encore aujourd'hui en France et qu'il faut continuer à protéger et à promouvoir. Et c'est cette industrie qui nous permet aujourd'hui de rapatrier des productions d'Italie ou de Pologne en France.
Alors comment donc, alors vous n'allez pas nous donner votre recette, mais le secret peut-être de votre compétitivité tout de même, parce que voilà, vous rachetez cette marque italienne, vous produisez tous vos produits en France. Comment vous y prenez-vous au fond, voilà, pour rester concurrentiel et pour avoir ce marché qui fonctionne bien, Made in France?
D'abord, dans notre métier, il y a un savoir-faire. Et la France est réputée mondialement pour ce savoir-faire dans la cosmétique. On a des systèmes de ce qu'on appelle des bonnes pratiques de fabrication, les fameuses BPF, qui nous protègent parce que elles sont reconnues dans le monde entier. On sait, un Chinois, un Africain ou un Américain sait que quand il achète un produit cosmétique français, il a une garantie de qualité et d'innocuité. Donc ça, c'est au niveau global. Donc ça nous rend service.
D'accord.
C'est lié aussi au fait qu'on est un groupe comme L'Oréal, qui est numéro un mondial, qui nous aide, et il faut pour cela le reconnaître. Mm-hmm. Et puis après, pour ce qui nous concerne, nous, eh ben c'est aussi parce qu'on essaye d'avoir des produits qui sont accessibles, c'est-à-dire que nous on est sur des produits le plus naturel possible. C'est pas toujours évident de faire d'ailleurs du naturel quand on fait des produits cosmétiques, mais en tout cas on essaye de faire le plus naturel possible. On essaye de faire des produits avec l'innocuité absolue, de façon à ce qu'il y ait aucun risque. Et puis on essaye surtout d'avoir des produits qui soient accessibles, c'est-à-dire que nos produits sont présents en grande distribution, ils sont pas chers. Ils sont raisonnablement dans le prix, et notre objectif à nous, c'est que tous les produits de nos marques, l'OVA, le Petit Olivier ou Laboratoire Renault, soient présents dans toutes les salles de bain de France.
Voilà, le Petit Olivier que représente Éric Renard, cofondateur de cette marque à Salon de Provence, Olivier Luanzi. Voilà, une filière qui réussit, un des fleurons français, c'est la cosmétique en effet. Alors, dans les secteurs qui marchent, il y a le luxe, évidemment, il y a aussi l'industrie de la défense, il y a l'aéronautique, évidemment. Mais voilà, ce que dit Éric Renard a du sens aussi sur... D'abord, ces normes françaises, ce brevetage français qui est sécurisant, qui est un label finalement aussi sur la cosmétique.
Tout à fait. Il y a deux grandes filières qui restent nos deux grands piliers d'exportation. C'est l'aéronautique et le luxe, et notamment par le cosmétique, comme vous venez de l'illustrer. Après, on a encore trois autres filières qui sont positives sur le commerce extérieur. La chimie, la pharma et l'agroalimentaire, mais seulement grâce aux boissons.
D'accord.
Et tout le reste est en déficit. C'est juste, je vous donne ce paysage-là, juste pour vous montrer que le résultat de notre désindustrialisation a conduit quand même à une véritable vulnérabilité. Nous avons deux filières qui sont vraiment les moteurs, mais que deux filières. Et on le voit très bien sur le cosmétique. C'est une filière qui fonctionne aussi sur la valeur du Made in France, où le Made in France a une valeur ajoutée par rapport à des clients partout dans le monde. Dans cette filière-là, on n'a pas l'équivalent tant que ça dans d'autres filières. C'est vraiment un travail qu'on doit faire collectivement. Quand vous achetez Made in France, vous achetez quoi? Quand vous achetez Made in Germany, vous achetez de la qualité. Mais pour le Made in France, il faut le travailler.
Vous travaillez sur le sujet, Olivier Luanzi, pour le compte du gouvernement, sur l'avenir de nos politiques industrielles. On aura plaisir à revenir dans le concret avec vous lorsque vous aurez déposé votre rapport sur la question. Merci beaucoup. A tout de suite avec vous, mon cher Willy.
Bonjour, oui.
Bonjour.
Comment faire en sorte que les agents d'entretien ne travaillent plus en horaire décalé? On en parle dans un instant.
A tout de suite avec votre tribu sur France Bleu.
France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu.
Merci d'être à l'écoute de votre premier grand média de proximité. Vous écoutez France Bleu, il est 13h, on se retrouve dans Ma France à partir de midi. On continue de vous raconter l'actualité. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur francebleu.fr, toute l'actualité sur l'application. Ici, à partir de quelques secondes, c'est Willy Rovelli qui vous accompagne avec sa tribu. Merci d'être à l'écoute de tous nos programmes. Merci à Manuel Calma, à Frédéric Dorel, à Bertrand qui ont travaillé sur cette émission aujourd'hui. Et à demain.